On parle, Claude, de colis ce matin.
Les colis, les paquets, qui sont l'apparition concrète de la saison des fêtes. Oui, elle vient aux journaux sous la carapace des grèves. Les colis, les paquets que l'on trie dans les hangars de l'agence postale de Séchamps, Meurthe-et-Moselle, dont l'Est républicain me raconte le balai. Voici le rush de Noël qu'annonçait Black Friday. Les postiers s'activent, dit le journal, qui raconte l'émerveillement d'une fillette devant Sébastien, facteur colis sur Villers-les-Nancy. Mais comment savait-il à quel étage, à quelle porte vivait sa famille ? Mais petite, je livrais ta maman avant même ta naissance. Dans le journal du centre, je lis qu'à Nevers, chez des commerçants, au doux nom de province, attendent d'autres colis. C'est le bout de la chaîne d'une pratique au nom barbare. Le click and collect, on commande sur le web, clique et on s'en va chercher l'objet chez un commerçant dépôt qui gagnera une poignée de centimes. À Bergère-de-France, rue Saint-Étienne, où l'on vend de la laine, Marie-Jeannet a déjà reçu des disques de frein en dépôt, étrange cadeau. À Intercave, on espère que les clients Amazon ou autres venus chercher leur paquet en profiteront pour découvrir des bouteilles. Le monde tangible espère un dernier regard. Notre bonheur de colis n'est pas innocent. Ce matin, un journal prend un ton prophétique pour dénoncer nos colis, nos cadeaux trop nombreux. Halte à la surenchère, proclame le 1, car nos frénésies d'achat attaquent la planète. Nous sommes coupables, oui, mais manipulés par la publicité, les vendeurs, les plateformes qui savent nos cerveaux. Un psychiatre l'explique. La zone du contrôle, le cortex préfrontal, est plus récent dans l'évolution de l'espèce que le striatum, siège de nos appétits. Au temps des survies, le striatum me disait « Vas-y, gaffe-toi, ne va pas manquer !» Mais désormais, le temps des cueilleurs est fini et le striatum me jette dans l'illusion de l'infini consumériste. Ce n'est pas d'aujourd'hui, même si aujourd'hui est pire. Au IIe siècle, Marc Aurèle priait ainsi « Mon âme, quand renonceras-tu à ces folles cupidités et à ces vains désirs ? Comme toujours dans le 1, c'est pédago-ludique, j'apprends que Marx fixait la limite entre le nécessaire et le superflu au moment où l'on cesse de déchiqueter la viande à la main pour user d'une fourchette et d'un couteau. Je lis aussi que pour nous sauver du superflu, le politique devrait agir. Dans Le Monde, je lis pourtant que Noël cette année est vertueux, écologique, que les produits durables, zéro déchet, sont au cœur de la quête des présents. Jouets en bois, cosmétiques naturels, pains de shampoing solides, gourdes à eau minérale, éponges lavables recyclables qu'une start-up, et oui, propose 14,90€ sur Internet. Mais à lire ce bon papier, je me demande soudain quelle est la part de la vertu ou de la ruse du striatum. Dans L'Heure, deux copains d'école, de commerce, ont inventé Carus, ça veut dire le cerf en gaulois, des baskets recyclables en lin de leur région, car le lin se satisfait d'irrigation naturelle, les semelles sont en plastique recyclé, les lacets réalisés à partir de vêtements anciens, on les agrée. À Tours, me dit la Nouvelle République, a fermé une simple mercerie. Nous ne savons plus ni coudre, ni tricoter.
On parle aussi de Miss ce matin.
Qui prolifère, et la Nouvelle République encore s'en étonne. Pourquoi tant de Miss ? Eh bien parce que les femmes sont diverses de corps et d'âme et tout ont droit à la couronne qui répare. Il était important pour Laetitia d'être Miss Curvy de courbe pour accepter les siennes. Il était important pour Charlotte d'être Miss des Trois Provinces pour surmonter le harcèlement qu'elle avait subi au lycée. Important pour Charlène d'être Miss Prestige pour dire qu'elle avait surmonté sa maladie. Important pour Céline d'être Miss Small Beauty parce qu'à 1m65 on y a droit aussi. Voilà des petits liens, rien, lourds de petits gras, drames et de petits courages. Dans le New York Times, vous lirez un courage lui hors norme et le plus émouvant des portraits, celui de Marieke Vervoort, une jeune Belge sportive atteinte adolescente par des douleurs tenaces, une maladie dégénérative qui a pris ses muscles. À 29 ans, elle n'en pouvait plus. Elle a sollicité d'un médecin, c'est la loi en Belgique, la possibilité de se suicider. Et ayant dans sa poche cette possibilité, elle put vivre, aimer, devenir championne paralympique et après 11 ans, elle décida qu'elle avait accompli. Le New York Times l'a accompagnée jusqu'au bout de sa force. Les photos sont superbes aussi, ce n'est pas rien. Belles aussi, pour notre soulagement, les photos que je vois dans Sud-Ouest, des caves d'Armagnac au ton orange et chaud qui consolent de tout. Étrangeté de lire dans le même journal qu'à Mont-de-Marsan, on ne peut plus vendre d'alcool dans les commerces passés 8 heures. Des âmes s'éteignent et nos vies se prolongent. Nous sommes tiraillés entre la beauté et les règlements.
Et de la sagesse, Claude, pour finir.
177 ans, Nicolas, de sagesse gourmande, complice cumulé, puisque l'Obs fait dialoguer deux vétérans amis. Edgar Morin, 98 ans, Régis Debray, 79 ans, un petit frère, rassemblé ce matin sur le site internet et demain dans le magazine de l'Obs, qui redevient Nouvel Observateur, Maison des Gauches, où brillamment on parle de révolution. Ils en furent. Morin jeune fut envahi de ferveur par une chorale trotskiste qui chantait la Marseille, qui chantait la Varsovienne, la ferveur m'est restée, dit-il, quand la foi a péri. C'est un alexandrin. Morin veut croire encore que les peuples se lèvent et que ce qui se passe dans la planète ressemble au printemps de 1848. Debray est tendre et ironique devant la foi de l'aîné, mais il est content, Debray, qu'on proteste en France car c'est notre singularité. Nous portons toujours en nous, c'est magnifique, l'increvable exigence d'égalité. Dans le Dauphiné libéré, ça plairait à Debray, je vois un Français en colère, il s'appelle Pierrick Michel, petit patron d'une entreprise de transport. En 2016, les mandataires d'un fabricant d'aluminium en train de sombrer lui ont dit qu'il ne toucherait jamais les 75 000 euros que cette boîte lui devait, sa boîte à lui a failli y passer. 3 ans plus tard, quand le fabricant vivait ses derniers jours, il a accepté d'aller chercher une dernière cargaison d'aluminium. Il en a prélevé et gardé 24 tonnes qu'il conserve afin qu'on sache ce qu'il a vécu.
Merci Claude Askolovitch.